France Culture. Heures 13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai Dominique Cabrera. Son très beau documentaire, Le cinquième plan de la jetée, est visible sur la plateforme arte.tv jusqu'au 2 novembre. Mais c'est la critique qui ouvre nos agapes. De l'humour en ce vendredi avec deux seuls en scène. Valérie Lemercier revient 10 ans après son dernier One Woman Show sur la scène du théâtre Marigny. Et l'humoriste Lou Trottignant se produit au théâtre Saint-Georges, puis en tournée partout en France. Et voici donc nos deux critiques du jour, Guillaume Aurignac et Adrien Desnouettes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, plateau nu, une quinzaine de personnages, Valérie Lemercier revient avec un spectacle à la forme conventionnelle, un enchaînement de sketchs coupés par des noirs. Seuls quelques accessoires viennent dessiner les portraits que l'actrice incarne avec son art, des accents et des intonations de classe, de la paysanne perdue dans la France rurale à la grande bourgeoise dans un château décrépit. Lemercier ne peut compter que sur son talent pour camper tout un monde. Nous n'avons pas d'extrait car l'artiste refuse qu'on diffuse des bouts de son spectacle. Il faut donc aller le voir, Adrien Desnouettes, un premier avis rapide.
Oh bah très simple, j'ai trouvé ça excellent. Pour moi, c'est le grand retour de la bosse, de la Queen. C'est un spectacle que je trouve d'une grande intégrité, d'une grande précision et surtout d'une grande gratuité. C'est ce que je trouve le plus jubilatoire. Et si ça signifie que mes goûts en matière d'humour sont restés campés dans les années 90, eh bien j'accepte la sentence.
Guillaume Aurignac.
C'est une peinture de caractère sans tirade moraliste, c'est une satire des mœurs qui est à la fois contemporaine et complètement inactuelle. C'est une pièce de théâtre féroce, c'est parfaitement réussi.
Bien.
Voilà.
Adrien Desnouettes, on commence avec vous. Peut-être un mot sur l'écriture, comment ils sont composés ces 15 sketchs?
Alors comment ils sont composés, vous voulez dire du point de vue de la fabrique ou à quoi ça ressemble?
De l'écriture, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça raconte?
Eh ben, ça ressemble à des choses que vous connaissez très bien, puisqu'en fait ça ressemble à l'humour dans lequel on a grandi. Alors je veux pas préjuger de l'âge que nous avons, mais nous avons tous à peu près ici connu les années 90, les années 80. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire c'est de l'humour de l'époque. C'est-à-dire que Valérie Lemercier, on la connaît de cette époque-là. Elle est, voilà, je refais rapidement le CV de Valérie Lemercier, mais c'est un artiste extrêmement polyvalent qui à la fois brillait au cinéma, mais aussi brillait sur scène. Et si c'est un peu moins connu, c'est précisément pour la raison que vous avez signifié tout à l'heure, à savoir qu'elle a toujours refusé les captations. Et je pense que c'est quelque chose, en fait, c'est marrant, mais avec le recul, je me suis dit que c'était probablement la meilleure idée, sa meilleure idée d'humoriste. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu l'impression d'assister au meilleur de l'humour d'identité française, tel qu'on en voyait jusque dans les années 90-2000. Et donc, à quoi ça ressemble du point de vue de l'écriture? C'est-à-dire une suite de personnages. Exactement comme si vous re-regardiez les spectacles des inconnus dans les années 90, ou les premiers spectacles, par exemple, de Gad Elmaleh. Vous vous souvenez quand Gad Elmaleh, avant de faire du stand-up, faisait des personnages. Aujourd'hui, c'est une tradition qui ne perdure pas beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est un peu la queen, la boss. Alors, il y a quelques héritiers. On a ici parlé de Benjamin Tranier, par exemple, qui est quelqu'un qui perpétue cette tradition des personnages. Mais ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous l'avez décrit tout à l'heure, une suite de personnages qui défilent, parfois qui reviennent, et qui vont, comme le disait Guillaume dans son introduction, brosser comme ça sur l'héritage des caractères, mais même des caractères. C'est un héritage très français. C'est-à-dire que c'est un héritage théâtral, c'est un héritage littéraire. Les caractères de Bruyère, c'est aussi l'humour de La Fontaine. Et donc, elle va puiser à cet héritage. J'ai envie de dire pour le faire briller de mille feux, parce que moi personnellement j'avais jamais vu Valérie Lemercier sur scène, et franchement, alors que je prétends être un spécialiste de l'humour, ça a été vraiment mais une énorme gifle. Je termine là-dessus, ensuite je file la parole, mais je considère que dans cet exercice-là, je ne m'attendais pas à voir un niveau presque du niveau d'excellence qu'ont eu les inconnus au début des années 90.
Guillaume Aurignac, vous avez employé ce terme d'inactuel. On l'entend dans ce que vient de dire Adrien Desnouettes, il parle d'humour des années 90. Alors pourquoi ça n'est pas daté finalement?
Alors d'abord, je vais dire pourquoi la crainte que ce soit daté. Effectivement, c'est un humour des années 90 et elle a démarré à la fin des années 80, Valérie Lemercier. Donc
elle a 61 ans aujourd'hui.
Oui,
hein.
Il y a plus de 35 ans. Et donc on pouvait se dire, d'une part, est-ce que son regard sur la société française n'est pas un peu dépassé? Et d'autre part, aussi la formule de l'humour aujourd'hui qui a été balayée par le stand-up, est-ce que ça aussi, ça n'est pas dépassé? Et en fait, d'abord son inactualité à elle, il faut quand même dire que quand elle a démarré, elle avait 23 ans. Son premier rôle au cinéma, c'est chez Milou en mai de Louis Malle. Elle a 23 ans, elle joue une dame de 50 ans. Elle est déjà inactuelle dès qu'elle démarre. Aujourd'hui, elle peut jouer un enfant. Quand elle fait le biopic de Céline Dion, elle joue Céline Dion enfant. C'est à la fois bizarre et totalement naturel.
Aline, hein, ce film.
Oui, Aline.
C'était très bien d'ailleurs.
C'était très bien. Elle a vraiment quelque chose d'intemporel et d'inactuel dans son jeu même. Elle a une puissance de jeu. C'est ça qui m'a vraiment fasciné. C'est la première fois, comme Adrien, que je la découvrais sur scène. Elle a un appétit de jeu qui est incroyable à voir sur scène.
Mais ce qu'il faut le préciser, c'est 1h30 de performance. Elle est seule.
Elle est seule.
Sans accessoires,
elle joue
sans
différents
décor.
Personnages. Et elle les joue très, très vite. Enfin, elle les enchaîne de manière très rapide. Avec un sens, effectivement, d'accrocher le détail précieux pour dessiner son personnage très rapidement. Elle est très forte à ça. Et cette extraordinaire puissance de jeu s'appuie sur aussi une écriture. Il faut souligner son écriture. Elle a un jeu langagier. Elle a vraiment une oreille absolue. Elle repère tout de suite les tics langagiers de ses personnages. Elle les restitue sur scène. Elle les restitue de manière très performative. On sent vraiment qu'on est avec elle. Et à la limite, il y avait des fois, je me disais, je suis dans une pièce de Joël Pommerat. Il y a quelque chose, cet humour-là, sur la déconstruction du langage, des mots. Elle joue parfaitement là-dessus. Elle coule ça dans une sorte de comique, de non-communication, de soliloque de plus en plus délirant. Notamment, on peut dévoiler un peu le premier sketch qu'elle joue. Elle joue une vieille fermière. Au début, je me suis dit, en fait, ça marche pas très bien.
Il y a presque quelque chose de naturaliste dans ce début.
Il y a quelque chose de trop pittoresque. En fait, il y a un élément trop pittoresque, c'est-à-dire une vieille infirmière avec l'accent. Enfin, on se dit c'est trop pittoresque. Et en fait, elle a une position stable sur scène dans la séquence. Elle garde sa position et elle fait monter progressivement le délire. Et ça devient, elle arrive sur les rivages de la cruauté. Et c'est ça qui est le plus beau et le plus fort, moi je trouve, dans sa comédie. C'est que sa comédie est traversée par du pulsionnel. La pulsion de mort, la pulsion sexuelle. C'est un rire qui est totalement transgressif et qui mezzo voce, c'est-à-dire qu'elle n'insiste pas là-dessus, elle ne le met pas vraiment en scène, mais progressivement, on comprend que dans tous ces personnages, il y a des enfants qui sont abandonnés, des veufs éplorés, mais qui jouent, qui rappellent la sexualité avec leur femme. Enfin, elle joue vraiment un côté pulsionnel, intime, très fort, une sorte d'inconscient animal de la part humaine de ces personnages-là, qui est très 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 fort, très puissant.
Adrien Desnouettes, vous avez employé ce mot de gratuité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça veut dire que dans ce qu'elle essaie de dire, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de leçon ?
Exactement, il n'y a pas de discours en fait. En tout cas, il n'y a pas de discours lisible. Et il n'y a même pas de discours très concrètement. C'est-à-dire que ce qu'on vient de décrire depuis tout à l'heure, ce qu'on vient de décrire, c'est le spectacle. C'est-à-dire que ça s'ouvre avec une mise en garde de ne pas filmer, qui dès le départ est jouée avec une espèce de voix du père Fouras qui d'emblée, à la première seconde, moi m'accroche. Et puis, jusqu'à la fin, il y aura juste un remerciement et pas de discours. Alors qu'aujourd'hui, les spectacles sont saturés de discours. Aujourd'hui, les spectacles ne sont même plus que des discours. Et c'est moi, c'est cette gratuité-là qui me plaît. Et justement, j'ai envie de répéter à quel point la gratuité c'est important dans le rire et dans l'exercice du rire et de l'humour, parce qu'en fait la gratuité, le rire est gratuit, c'est-à-dire que le rire fait toujours des victimes. On ne peut pas le rendre exagérément bienveillant. Et je lisais un article du Monde qui recensait le spectacle de manière très positive, comme on est en train de le faire, et qui disait c'est un rire sans gratuité. Mais non, au contraire, c'est la gratuité qui m'intéresse, c'est-à-dire juste le rire pour le rire, parce que ça nous soulage. C'est-à-dire exactement comme si les humoristes étaient des espèces d'ostéopathes du corps social, qu'ils cernaient les tensions, ils cernaient les zones d'absurdité, et qu'ils nous soulageaient par le rire. Et je vais vous dire, pour un petit peu prolonger ce que disait Guillaume sur cette espèce d'état très pulsionnel mais très sensible à ce qui fait crispation en ce moment chez nous, il y a une très belle blague qui a énormément fait rire la salle. C'est probablement une de celles qui fait le plus rire la salle. Et moi, cette blague, ça fait un an que je l'attendais. C'est une blague sur Gisèle Pélicot. Et justement, c'est pour vous dire à quel point ce rire est politiquement introuvable, insituable. Je suis incapable de dire ce que pense Valérie Lemercier, si ce n'est a priori qu'elle ne vote pas RN, puisqu'elle fait une blague sur Jordan Bardella. Mais si ce n'est, je ne saurais pas dire ce que pense Valérie Lemercier. Néanmoins, elle va précisément aller pointer avec une mise en scène et une écriture, un travail d'écriture et donc de mise en scène de la blague et de la punchline qui est absolument virtuose, elle va aller pointer l'endroit où elle sait que toute la salle va rire parce que ça a fait crispation, parce que ça fait tension. Et donc elle arrive à faire cette blague sur Gisèle Pélicot. Et c'est quoi cette blague sur Gisèle Pélicot ? C'est quelque chose qu'on ressent tous. Parce que bien sûr que ça nous a crispé l'affaire Mazan il y a un an. Mais il y a un an, on ne faisait des blagues que sur Dominique Pélicot, c'est-à-dire la version la plus facile, être du bon côté des choses. Et elle arrive à faire une blague sur la fétichisation des victimes d'aujourd'hui. Et donc du fait que Gisèle Pélicot se retrouve absolument partout, alors qu'elle n'est quelque part que dans un statut de victime. Et donc elle arrive à faire ce truc que je n'entends nulle part dans le stand-up. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir du courage pour faire cette blague. Et ben, c'est un peu à l'image de tout ce qu'elle fait. Et elle termine comme ça sur une espèce de morceau de bravoure théâtrale. Il faut rappeler que Valérie Lemercier, je citais l'héritage d'où elle vient, littéraire, mais théâtral aussi. C'est des gens qui viennent du conservatoire. Je veux dire, si les gens étaient excellents à l'époque de Didier Bourdon, de Christian Clavier, de Valérie Lemercier, c'est parce qu'ils avaient fait du théâtre, en fait. Ils venaient du conservatoire, ils avaient une culture classique. Et Guillaume citait tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, tout s'uniformise sur le modèle modèle américain du stand-up. C'est vrai. Et c'est génial qu'elle ait pas capté ces spectacles et qu'elle arrive comme ça, telle une espèce de petite bulle de rire d'identité française et qu'elle nous dise, non, non, mais en fait, l'excellence en France, elle est toujours là, en fait. Ça, c'est presque un rire de résistance identitaire française. Alors, ça paraît très réac, ce que je suis en train de dire. Mais en fait, à l'heure où tout le monde fait du stand-up, ça me fait plaisir de comprendre qu'en fait, il y a encore des rieurs qui ne réduisent pas la perception du monde à leur moi, parce que c'est ça le stand-up, hein, c'est moi qui parle, mais qui arrivent à faire passer tout le corps social à travers leur corps. Et ça, c'est fait avec, enfin vraiment, c'est virtuose et c'est, j'insiste, c'est un spectacle qu'on peut vraiment offrir pour Noël et recommander à quasiment n'importe qui.
Alors Guillaume, peut-être un mot justement sur cette absence de position. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Adrien Desnouettes, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Elle aborde plein de sujets. Il y a quand même plusieurs sketchs qui reviennent sur des agressions sexuelles qui seraient finalement pas si graves. Est-ce que d'aller jusque-là et justement de ne pas prendre position, vous, ça fait partie de la réussite de ce spectacle ?
Oui, totalement. Alors c'est pas que le spectacle dit que ce n'est pas si grave, c'est que cette gravité est reformulée à travers le rire. Ce qui est différent. C'est-à-dire que la tragédie est reformulée à travers le comique. Ce qui est vraiment le principe du grand rire salvateur, salutaire, qu'on doit pratiquer et qu'elle pratique de manière très, très réussie là-dessus. Donc, non, moi, effectivement, il n'y a pas de position, il n'y a pas de positionnement. Ce qui est un peu le cas dans le stand-up, le stand-up a un peu entraîné ça, c'est-à-dire de délivrer des opinions et de créer des espèces de communautés d'opinions contre des communautés adverses. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Elle parle d'une sorte de fond anthropologique de l'humanité. C'est là où je la trouve très très forte et très puissante, c'est à travers du détail et de l'anecdote, à travers quelques personnages, qu'elle arrive à étaler l'éventail de ce que c'est que l'hébétude qu'on peut avoir dans l'existence. Et je trouve ça, elle est très forte. Il y a un personnage de gamine qui est gardé par une babysitter.
Ah, excellent, excellent.
C'est à la fois drôle et d'une immense tristesse.
Dont la mère a gagné le prix Goncourt, je crois.
Voilà, elle arrive à jouer tout ça ensemble, sans message, sans dispositif justement de mise en place de cette tristesse, de cette mélancolie-là, pas du tout. On est que dans le rire. Elle est vraiment très très forte. Et sur à quel point elle est très forte, parce qu'elle arrive même à faire de l'autodérision à travers ses personnages. C'est-à-dire qu'à un moment, elle se met dans le public et elle va jouer quelqu'un du public qui dit mais j'en ai marre, je voudrais qu'elle me joue la Renardière. Donc un de ses sketchs très célèbres. Donc et elle dit moi je connais le sketch par cœur, donc elle joue ce personnage dans le public qui va jouer la Renardière, le sketch de la Renardière sur scène. Elle a une sorte d'autodérision, elle se joue, elle se met elle-même en perspective dans son propre spectacle, elle est très très forte.
Peut-être juste un dernier mot très rapide sur le public, puisque vous en parliez, elle n'attend pas le rire du public, c'est-à-dire que son spectacle est tellement huilé, on a presque l'impression d'une machine incroyablement rythmée, que finalement elle joue quoi qu'il se passe, non ? Le rire du public n'est pas intégré comme on peut le voir dans certains spectacles d'humour.
Oui, mais en fait si, c'est-à-dire qu'un très très bon humoriste joue toujours avec le rire du public, même s'il y a un quatrième mur, comme c'est le cas ici, et de la même façon que les meilleurs artistes de stand-up arrive exactement à tirer le levier pour faire rire, elle le fait exactement de la même manière. Mais Guillaume l'a cité tout à l'heure, c'est quand parfois elle commence sur des personnages qui, a priori, ont l'air ratés, et qu'en fait ils vont énormément déraper dans quelque chose de très absurde et de très noir, et c'est là qu'elle va vous surprendre, comme si cette espèce de flottement du début faisait partie de la surprise.
Valérie Lemercier est à voir sur scène au Théâtre Marigny, et c'est jusqu'au 3 janvier 2026. C'est un petit jingle coup de cœur juste pour vous, Carole Boinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction des Un Rock et vous souhaitez nous parler de quoi aujourd'hui ?
Alors d'un nouveau projet rap qui s'appelle Petite Sœur. Et ce midi, j'ai décidé de ne pas faire dans la facilité. Quand j'ai vu que Petite Sœur ne donnait pas d'interview, qu'on ne savait absolument rien d'elle, qu'elle jouait au jeu de « Je me cache dans l'ombre et vous n'aurez que ma musique », je me suis dit « Super banco, consacrons-lui une chronique radio de 2 minutes 30 ». Trêve de plaisanterie, des choses à dire sur Petite Sœur, il y en a plein. La claque étant aussi violente que le pseudo innocent, Petite Sœur, dit comme ça, on n'imagine pas vraiment un projet de rap que je pourrais qualifier de hardcore. Corps, et pourtant, je vous laisse écouter.
Femme sœur VX dans le verseur, tu gueules fort pour percer, mais tu fais peur à personne. Je dois tes comptes à personne, je pense au tal qu'on gère seul. Je crame un sédatif comme un soldat des contrées personnes. Si je fais 5-0, je pète un quart dans des R7e, le monde en.
Ce morceau, Angie, est extrait du dernier album de Petite Sœur, Pretty Doll Corpse, enregistré en featuring avec le rappeur Femme Togo et le beatmaker Néofront. Pretty Doll Corpse, que l'on pourrait traduire en français par joli cadavre de poupée, le terme doll, poupée, faisant référence aux femmes trans. On l'a vu cette année fleurir sur des t-shirts en soutien aux personnes trans avec le slogan Protect the Dolls, car Petite Sœur est une rappeuse trans, ce qu'elle mentionne dans ses morceaux. Le projet est violent, puisqu'elle dépeint une réalité violente au travers de thèmes qui sont très peu abordés habituellement dans le rap, la transidentité, la santé mentale, l'homosexualité, le rapport aux parents, la prostitution, la pauvreté, les violences sexuelles. Les questions intimes se font ici hautement politiques, façon de dénoncer les dérives de la société. Regarde maman, c'est ma gueule sur les écrans, ton fils en est sorti, alors qu'à la base, je partais à l'HP, rappe son acolyte Femme Togo sur Angie. Petite Sœur incarne la nouvelle rébellion en musique, au croisement du rap et du punk, voire de l'émo. Certains appellent ça le digicore, une musique sombre et brutaliste, inspirée des esthétiques numériques avec références YouTube, glitch, voix trafiquée, son acide et utilisation de guitare rock. Le digicore, raccourci pour digital hardcore, est né dans les années 2010. Comme l'hyperpop, le digicore cherche à casser les codes de la chanson, qu'elle soit rap, pop, électro. Ici, on est dans l'expérimentation, la réinvention, dans un mouvement de rébellion face au code marketing d'une industrie musicale dédiée à l'entertainment. En gros, il y avait le punk en 77, le grunge dans les années 90, il y a désormais le digicore et Petite Sœur. Projet tellement tortueux, habité et abîmé qu'il en devient inclassable, gravitant quelque part entre le monde de Matrix, les bas-fonds d'Internet et le futur de la musique. Ce projet, qui aurait pu rester tapis dans l'underground, ne cesse de faire parler de lui depuis sa sortie il y a 3 semaines. Le 11 octobre, l'album arrivait en 2e position du classement des albums les plus populaire sur le site de musique Genius, juste derrière celui de, roulement de tambour, Taylor Swift, The Life of a Showgirl, incroyable mais vrai.
Merci beaucoup Carole. Peut-être un dernier mot avant de vous laisser repartir. La une des In Rock ce mois-ci, elle ressemble à quoi ?
Elle est consacrée à Radiohead, autre groupe très très puissant qui fait son grand retour avec une tournée européenne qui malheureusement ne passe pas par la France mais qui passe par beaucoup d'autres capitales européennes.
Merci beaucoup.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
En grandissant, moi, j'avais pas de modèle de personne qui faisait moite-moite. Il n'y avait pas de star moite-moite, il n'y avait pas tout ça. C'était dur de grandir comme ça. J'ai vraiment écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait. Et à un moment, j'ai trouvé. C'est le Mérou. Vous n'avez pas l'air choqué par cette information. C'est un poisson. Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut même redevenir femelle. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop moi. C'est un poisson de 2 mètres de long. Il est trop moche. Je l'adore. Il fait tout le temps cette tête-là. Je comprends son sentiment de vie constante. La panique. C'est un poisson tellement sympathique qu'il en est con. Du coup, il se fait pêcher hyper facilement. Et moi, je me fais pécho hyper facilement.
On poursuit notre programme avec le one-man show de Lou Trotignon, Mérou. À sa naissance, les médecins ont décidé que Lou était une femme, mais Lou n'était pas d'accord. Il raconte aujourd'hui sur scène son histoire de transition, de la prise de testostérone à la découverte du monde queer. Lou Trotignon revendique d'utiliser l'humour comme outil pédagogique pour lutter contre la transphobie. Guillaume Aurignac, qu'avez-vous pensé de ce spectacle ?
C'est un spectacle qui est évidemment sous contrainte, puisque, comme vous le disiez, il a une dimension pédagogique et un peu militante. Il arrive quand même à se libérer de cette contrainte. Alors, il faut quand même un peu le replacer dans ce qui est arrivé au stand-up depuis 2018 et l'arrivée d'Anna Gatsby sur la scène mondiale du stand-up avec son spectacle Nanette, où la première partie du spectacle consistait à jouer les formules du stand-up, c'est-à-dire l'autodérision, et on mitraille le spectateur de blagues. Et la deuxième partie déconstruisait totalement ça en disant, Anna Gatsby disait à l'époque que l'autodérision pour les personnes comme elle, c'est-à-dire au croisement de différentes minorités, l'autodérision était en fait une humiliation. Et que donc, elle ne voulait plus faire de stand-up sous cette forme-là. Alors, elle a continué après à faire du stand-up, et c'est un stand-up assez militant, où elle met en scène son identité devant un public qui lui ressemble le plus souvent. C'est un peu le cas du spectacle de Lou Trotignon, je dois dire. Et donc, il n'est pas exempt de certains défauts, je trouve, de ce genre-là, et notamment ce côté, plutôt que de... si vous voulez, de faire la blague une sorte d'élément, d'instrument de, radical de rire et de critique du réel, on va faire la, de, plutôt un, comment dire, un salut de sa propre vertu. Et en fait, c'est une sorte de sanctification du réel. Ce qui est vraiment, ce qui travaille à l'inverse du rire. Au lieu d'avoir un rire transgressif, on a un rire qui est plutôt un rire communautaire, d'empathie émotionnelle avec son public. Voilà. Alors, probablement que ça, c'est dû au fait que la transgression de l'outre Trentignon, c'est son histoire, c'est sa traversée, sa transition de genre, et c'est là qu'il a probablement fait sa plus grande transgression, et du coup, il y a moins de transgression dans le rire. Sauf que je trouve que finalement, ça marche. Ça marche en termes d'humour, ça marche en termes de spectacle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie personnalité comique derrière ce spectacle-là, qui est capable, contrairement à ce que disait Anna Gatsby dans son spectacle net, qui est capable d'autodérision. Et il se met en scène, et à un moment, il va travailler, parler de sa coupe mulet, par exemple, comme une sorte d'identité liée à la transition de genre. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble d'éléments où il se moque un peu de lui-même, de manière très drôle, et il y a aussi un travail sur le burlesque quasiment, il y a un travail sur son corps qui est assez savoureux. Non, je trouve qu'il s'en sort très très bien par rapport à la contrainte de départ.
Adrien Desnouettes, un premier avis sur ce spectacle-là.
Ah, ça, c'était un premier avis ?
C'était un avis long, mais premier. Vous avez le droit aussi à la parole.
Bah alors, un premier avis assez rapide, mais bon, que je vais peut-être faire.
Vous pouvez développer.
On va développer. Mais je trouve que j'ai été quand même assez surpris en bien. C'est vraiment un spectacle que je trouve d'une très grande maîtrise, très très bien écrit, très bien interprété, mais qui justement, et c'est un peu ce que je reproche à beaucoup de spectacles auxquels je pourrais faire les mêmes compliments, frise le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de. On atteint. Longtemps, moi, je me suis plaint du stand-up en France en disant qu'on était à une phase balbutiante où on copiait les Américains. Sauf que là, on a atteint un tel niveau, je dirais, d'excellence dans l'appropriation de cette culture, que ça y est, on voit arriver les premiers qui sont très bons. Et je pense que Lou Trentignon fait clairement partie de ceux qui, et c'est le rendez-vous que j'ai envie de donner à cet artiste, dans 5 ans sera encore meilleur. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Pourquoi je dis c'est pas encore là ? Parce que dans cet espèce de contrôle, il y a un espèce de truc un peu parfait qui m'empêche de rire. Pourquoi ? Parce que Guillaume vient de le dire, en fait, il y a un travail d'équilibrisme qui est très très difficile à tenir. C'est-à-dire que vous êtes face à un spectacle qui à la fois assume complètement son positionnement communautaire. Nous sommes dans le centre de Paris, c'est dans ces conditions-là que je l'ai vu. Et dans les centres-villes en France, il y a, oui, du public pour Lou Trentignon, c'est-à-dire pour cette histoire qu'elle porte, ce récit de transition, de fille vers garçon, transgenre, voilà, Mérou, elle trouve une très belle métaphore. Et il y a un public pour ça. Et j'étais dans ce public-là. Sauf qu'il y a aussi une autre dimension dans le spectacle, c'est une dimension pédagogique très assumée aussi. Donc en fait, si je résume, vous êtes dans un spectacle qui vous dit, je parle au mien parce que c'est un point de vue qui manquait sur la scène stand-up, et je peux totalement l'entendre. Mais c'est aussi un point de vue qui dit, on va aussi s'adresser aux moldus. C'est-à-dire, on va aussi faire de la pédagogie, du didactique, on va leur apprendre un peu ce qu'on est. Le problème, c'est que là, vous vous adressez à deux publics. Et à ce moment-là, on a le cul entre deux chaises et on est constamment en train de balancer entre quelque chose qui pourrait être beaucoup plus méchant et qui pourrait me plaire, c'est-à-dire du purement communautaire, du purement eux contre nous. Et moi, ça pourrait me faire rire. Au contraire, je vais même dans le stand-up pour ça. Je veux dire, j'ai aucun problème à être traité de moldu et de me faire... Après, c'est moi, c'est mon problème, hein, mais j'ai aucun problème avec l'expérience masochiste du stand-up en tant que mâle blanc qui n'est pas trans. Et j'aurais adoré, en fait, en prendre beaucoup plus. Sauf qu'il y a une dimension pédagogique qui essaie de rattraper tout le monde. Et pourquoi
c'est trop gentil pour vous ?
Mais en fait, surtout, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que au fond du fond, dans l'intention, c'est qu'on cherche à plaire. Et donc, quand on cherche à plaire, c'est pas très rigolo, ça n'est pas drôle. On ne détruit pas grand-chose. Et le problème, c'est que je vois bien que Lou Trentignon a mais ô combien le talent pour le faire, et même parfois elle le fait. Guillaume Aurignac à l'instant citait des saillies, des fulgurances d'autodérision, et il y a même des saillies et des fulgurances de méchanceté. Elle cite un moment du public qui a eu lieu à La Roche-sur-Yon, qu'elle qualifie clairement un peu, voilà, normcore, un peu droitier, et elle devient drôle. Et c'est là que j'ai envie de dire, mais prends, vas-y, saisis le tire-fesse et emmène-nous très très loin là-dedans. Fais-nous mal, en fait. Et oui, dans cette volonté de ne pas donner de coups, finalement, je ne ris pas beaucoup.
Guillaume Aurignac.
Il n'a pas le public pour ça, c'est-à-dire que son public est déjà. Qui est déjà conquis et qui est déjà acquis. C'est ça, je trouve, le problème du spectacle, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui se veut pédagogique, mais face à un public qui est déjà au courant. Donc
son public, c'est La Roche-sur-Yon, en fait.
Probablement, mais est-ce qu'il y va ? Je sais, enfin, peut-être qu'en tournée, je sais pas. Enfin, je sais pas comment ça va se passer.
Vous avez commencé à évoquer le rapport au corps, vous parlez de burlesque. Vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, sur scène ?
Alors, Il va décrire aussi ce que c'est que la transition de genre, et il va aller vraiment dans le détail, puisque sur les questions corporelles, physiques, il va jusqu'au bout, et il en fait un jeu parfois burlesque sur, enfin, il va montrer son cul, quoi. À un moment, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment l'essence même du comique, le bas, voilà, pour parler du haut. Là-dessus, il n'hésite pas, et moi je trouve que là, il y a quand même une puissance comique qui s'assume vraiment dans ce spectacle-là et qui traverse cette espèce de contrainte pédagogique du spectacle. Sur ce que disait Adrien, il y a quelque chose effectivement sur cette espèce d'empathie émotionnelle et communautaire du spectacle, ça peut arriver à quelque chose de problématique. Il y a un phénomène aux États-Unis qui s'appelle le phénomène des clappers, c'est-à-dire que dans les scènes de stand-up, on ne rit plus, on applaudit. On applaudit pas forcément une blague, mais on applaudit la célébration de sa propre identité. Il y a un peu de ça chez Lou Trentignon. À un moment, il nous fait tous nous applaudir parce que pour notre identité. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire de s'applaudir pour sa propre identité. Voilà. Et là, le spectacle, à ce moment-là, dérive un peu, va un peu trop loin par rapport à l'humour. Mais c'est rattrapé par ce vrai sens de l'autodérision. Et surtout, il y a quelque chose qu'il cherche à faire et qu'il réussit quand même. C'est une personnalité sympathique, Lou Trentignon, vraiment éminemment sympathique, qui crée une sorte d'aura de sympathie autour de lui. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas agressif, c'est vrai qu'il n'est pas clivant, il ne cherche pas à cliver. Mais en même temps, il arrive à faire une sorte d'humour qui marche dans cette espèce de gentillesse. Notamment, il va parler à un moment de la pratique BDSM, qui est une pratique sexuelle qu'il a. Et il va dire qu'en fait le meilleur endroit pour travailler cette pratique-là, c'est le roi Merlin. Et donc il va ramener la classe moyenne, si vous voulez. Il ramène la classe moyenne tranquille, normée, normcore. Il la ramène vers le BDSM. Ça c'est vraiment un art comique de faire ça.
Un dernier mot, Adrien Desnoyers. Est-ce que vous diriez, on l'a compris, c'est un spectacle pédagogique, mais est-ce que vous diriez que Mérou est aussi un spectacle politique?
Oui, bien sûr, et c'est assumé. Mais c'est aussi là que moi je vois je rejoins totalement Guillaume sur ce qu'il vient de dire. Si je mets des bémols et des nuances, ça n'est pas du tout pour négliger le grand talent de l'humoriste et du spectacle. Allez le voir. Il y a vraiment, moi je suis sûr que dans 5-10 ans, ça fait partie des grands, Lou Trentignon. Mais, néanmoins, il y a quand même un truc qui m'ennuie, même dans cette dimension politique. C'est qu'en fait, son histoire, je la connais déjà. Et comme on est à Paris, dans le centre-ville, on est beaucoup à la connaître déjà, en fait. L'identité trans, c'est-à-dire ce militantisme-là, LGBTQ, même ici, je veux dire, on est à France Culture, on le connaît très très bien. Et je le connaissais très très bien. Et donc, j'ai envie de dire, l'identité trans fait un peu quand même écran à la singularité de sa voix. Moi, j'ai envie de savoir qui c'est, en fait, Lou Trentignon, derrière cette identité-là.
Donc, vous l'appelez à faire un autre spectacle sur un autre
sujet,
finalement.
J'ai envie de la phase d'après, en fait. Et qui, moi, le conseil, enfin, c'est pas le conseil, c'est mon attente de spectateur, un peu moins de pédagogie, un peu plus de rire.
Vous avez ri quand même, Guillaume ? Dernier mot rapide.
Ah oui, c'est un spectacle où on rit.
Bon. Mérou, One Man Show de Lou Trentignon est à voir jusqu'au 30 décembre, c'est au Théâtre Saint-Georges. Adrien Desnoyers et Guillaume Aurignac, merci à tous les deux. Et comme toujours, vous retrouverez toutes les références de ces deux spectacles sur la page des Midi de Culture sur le site France Culture.